Je reprends quand même quelques versets qui ont déjà été cités par les enfants sans m'y attarder, parce que c'est la base du message de ce matin. Au 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La parole de Dieu confond notre prétendu savoir, notre prétendue intelligence. Et il suffit de regarder le monde. On parle de guerre, de bruit de guerre. On pensait que c'était fini. Tout le monde voulait faire des rondes comme les enfants, avec des drapeaux, avec etc. Et malheureusement, on continue à parler de guerre. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Le cœur de l'homme aujourd'hui est le même qu'il y a 2000 ans, qu'il y a 4000 ans. C'est un cœur qui est rempli du péché. La question, c'est le péché. Or, on essaye de ne plus parler de ce mot qui est désuet, qui est connoté, etc. Et l'ennemi se charge de cela pour éviter de parler des choses qui fâchent, mais en fait, c'est la seule chose qui compte. Et la croix est le symbole du péché qui a été brisé, qui a été cassé. Jésus est venu et c'est lui qui a réglé la question du péché. Il y a trois fêtes, disons, essentielles dans le christianisme. C'est Noël, Pâques et... J'aime bien l'interactivité, ça me permet de voir si vous êtes en la sieste ou pas. Et la Pentecôte. Bientôt, on fêtera Pentecôte, mais aujourd'hui, c'est Pâques. Les Juifs avaient aussi des fêtes. Est-ce qu'ils avaient Noël ? Non. Est-ce qu'ils avaient Pâques ? Est-ce qu'ils avaient Pentecôte ? Voilà. Donc on a deux fêtes en commun avec les Juifs, les Pâques et Pentecôte. Pourquoi pas Noël ? Parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'histoire, vous voyez. Le christianisme est historique, il n'est pas spéculatif, ce n'est pas une philosophie spéculative. Spéculatif, ça veut dire que, voilà, en anglais on appelle ça du « wishful thinking », on pense des choses, mais est-ce que le fait de penser de l'homme avance à quelque chose ? Vous savez, toutes nos pensées, elles vont disparaître dans la tombe. Alors bien sûr, on a des librairies, on a maintenant Internet, on peut mettre nos pensées dessus, mais nous, nos pensées, elles sont limitées à notre vie. Mais l'histoire indique que Dieu est intervenu dans cette histoire. Et tous ceux qui le refusent, eh bien, c'est leur droit. Mais si, ils en paieront les conséquences, puisqu'ils ont refusé que Dieu a la capacité d'intervenir dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu Noël. Parce que Noël a été prévu dans l'Ancien Testament. Il a dit que la Vierge enfantera d'un enfant qui naîtra d'en haut et qui apportera le salut au peuple. Donc Noël, c'est une fête qui est venue lorsque Jésus est arrivé depuis la naissance de Jésus. Mais Pâques est restée une fête commune entre les Juifs et nous. Alors, on appelle, dans la Bible, normalement, on parle de la Pâque. Mais dans la culture, en général française, on parle des Pâques. Alors pourquoi on parle les Pâques ? Parce qu'il y a la Pâque orthodoxe, il y a la Pâque juive, la Pâque chrétienne. Et les dates ne sont pas toujours les mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des années, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas retenu le terme, tous les 25 ans, où la date est à peu près la même. Parce qu'elle est définie par la Lune, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Mais cette année, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a les Pâques, différentes Pâques, mais en tout cas, ce n'est pas la même. Oui, mais c'est quand? C'est cette semaine? Ah, d'accord. Voilà. Donc vous voyez, il y a des fois où ça tombe ensemble, des fois ça ne tombe pas, etc. Enfin, peu importe. C'est pour ça qu'on appelle les Pâques au pluriel. Mais la Pâque, c'est quoi la Pâque? Ça veut dire quoi, Pâques? Ça veut dire les œufs, les lapins, les... ça veut dire quoi, Pâques? Pardon? C'est passage. C'est le passage. Pâques, c'est le passage. Le passage de quoi? Pour les Juifs? Voilà. C'est le passage de la mer Rouge. C'est un événement historique aussi. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de mythes. De toute façon, les incroyants, ceux qui sont dans la sagesse dont on parlait tout à l'heure, spéculative, ils aiment bien les mythes. Parce que les mythes, c'est une croyance qui est enracinée dans la culture, voilà, qui est non historique. C'est que voilà, on croit tous le mythe. On ne sait pas, voilà, parce que justement, il n'est pas daté. Hein, comme ça, on est tranquille. Tout le monde peut croire un mythe. Voilà. Et donc, on aime bien le mythe du passage de la mer Rouge. Mais je vous rassure, c'est pas un mythe, parce que les Juifs, ils ont eu la Shoah, ils ont eu tout ce qu'ils ont souffert, et à chaque fois, c'est la Pâque. Qu'ils célèbrent, c'est ces fêtes historiques où un jour, de l'Égypte, ils sont passés dans le pays de Canaan. Vous voyez, c'est une réalité. Mais l'homme, sans Dieu, veut à chaque fois mythifier les choses, ou démythifier, ou mythifier les choses, alors que la Bible est un livre historique. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ces mois famille pour prendre des personnages historiques. David, c'est quelqu'un qui a vécu historiquement. Et la différence entre la Bible, et vous l'avez vu dans ces études que Michel fait, c'est contrairement à des religions, on a découvert les Hittites, hein, et les gens disent « Non, la Bible parle des Hittites, mais ça n'a pas existé. Pourquoi ? Parce que c'est la Bible qui le dit. Voilà. » On dit un tas de choses, Jules César, lui, tout le monde croit qu'il a existé. Hein. Sauf qu'on a beaucoup plus de sources sûres sur la Bible que Jules César. Bon. Mais peu importe, bon, les gens, voilà, ils croient ce qu'ils veulent, voilà, et ils le décident comme ça. Et donc, ce que je vais dire, c'est le mythe qui est très très fort parce qu'il est ancré dans un sentiment. On a l'impression que c'est vrai. Mais l'impression, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc chacun répondra de ce qu'il croit. Mais la Pâque, c'est pour les Juifs, c'était un passage historique entre l'Égypte et le pays de Canaan. Et ce passage, qui s'appelle la Pâque, a été la délivrance de l'esclavage à la liberté. Et la Pâque chrétienne, c'est la même chose. C'est le passage de l'esclavage du péché à la liberté. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres de ne pas pécher. Nous pouvons pécher. Dieu ne nous l'interdit pas. En tant que chrétien, tout à l'heure on avait parlé des prêtres, oui c'est vrai, qui ne donnent pas forcément des bons témoignages, et on le voit aussi avec la pédophilie. Et il y a beaucoup de Français qui n'ont pas la foi à cause de ça. Mais est-ce que les prêtres, ils sont Dieu? Voyez-vous, la foi protestante, en revenant aux sources, a découvert Luther, donc il y a 500 ans, c'est la fête cette année en France et dans le monde en général, des 500 ans de la Réforme. Il a découvert que dans la Bible, en lisant la Bible, c'est marqué que nous sommes un peuple de prêtres. Et il n'y a pas les prêtres et les laïcs. Ça, c'est une invention de la religion catholique, mais c'est pas biblique, c'est une religion, c'est une invention humaine. La Bible dit que nous sommes une race de sacerdotale, une race de prêtres. Nous sommes tous prêtres, sauf qu'il n'y a qu'un seul souverain prêtre, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce qu'il est sur terre? Aujourd'hui ? Est-ce qu'il est sur Terre ? Non, bon, c'est pas un piège. Hein. C'est vrai que spirituellement, il est avec nous. Hein. D'accord. Mais physiquement, concrètement, il est dans le ciel. Mais un jour, il viendra. Et alors là, je vous invite à voter pour lui, parce que vous ne serez pas déçus. Lui, vous ne serez pas déçus. Et pourquoi vous ne serez pas déçus avec Jésus ? Lui qui régnera sur la terre. Et ça, c'est une réalité. Et un jour, chacun sera confronté à cette réalité, qu'il le veuille ou pas. On est dans l'histoire. Voyez, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans du mythe, on n'est pas. Voilà, on est dans une histoire. Jésus est venu parce qu'il avait été prédit qu'il viendrait. Et Jésus va revenir parce qu'il est prédit qu'il va revenir. On est dans une histoire. Et ça, c'est la foi chrétienne. Et si nous croyons en cela, nous allons le voir. Nous allons le vivre. Et donc, Jésus est venu pour vivre cette Pâque. C'est pour ça qu'il a institué le repas qu'on va prendre tout à l'heure, pour commémorer, pour nous rappeler. Exactement comme les Juifs se rappellent du passage de la mer Rouge. Pour eux, la Pâque, c'est le passage de la mer Rouge, de l'esclavage à la liberté. Nous étions esclaves, étant dans le péché, et aujourd'hui nous le sommes toujours, même en tant que chrétiens. Simplement par la foi, nous devons saisir une nouvelle réalité. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que les hommes vont toujours vous décevoir. Et nous, on va vous décevoir. Et les chrétiens, même évangéliques, même auréolés de tout ce que vous voulez, ils vont décevoir. Parce que nous n'avons pas encore ce corps de résurrection de Jésus. Le jour, on l'aura. Mais il faudra passer par la mort avant, physique. Le jour, on l'aura. Là, ce sera différent. Et là, on sera comme Jésus. Mais dès maintenant, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons ne pas pécher si nous faisons appel à Jésus. Et ça, c'est le choix de chacun. Un chrétien peut être chrétien, né de nouveau, pas de problème, mais tous les jours, il doit prendre sa croix. Alors comme moi, j'étais catholique jusqu'à mes 20 ans, on m'a toujours appris, et c'est toujours ça dans j'avais toujours ça dans la tête, que la croix, c'est, vous voyez, comme là, elle est derrière, la croix, de prendre sa croix. De prendre sa croix. Et vous, là, c'est quelque chose, voilà, qu'il faut trimballer avec soi. Voilà. Alors, ça se traduit par un tas de choses. Ça se traduit par il faut aller à l'église. Ça se traduit par il faut lire la Bible. Il faut obéir aux parents. Il faut aller dans les pèlerinages. Il faut même mettre, si vous êtes bien chrétien, vous mettez même un petit caillou dans les chaussures, voyez. Et là, ce sera le top du top, de souffrir pendant tout le temps que vous faites le pèlerinage. Et ça, c'est la croix, porter la croix. Et plus vous portez la croix, et bien plus vous êtes chrétien. Voilà, c'est un label, le christianisme. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Peut-être vous ne connaissez pas tout ça, mais est-ce que c'est ça que la Bible veut dire ? Hello. Ah, je préfère quand même que vous répondiez par une réponse claire. Non. Ceci étant, il y a quelque chose de vrai. Et c'est quoi ? Porter sa croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, est-ce qu'il y en a qui veulent suivre Jésus ici ? C'est votre choix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Waouh ! Renoncer à lui-même. Donc, même si on est chrétien, vous voyez, on peut être né de nouveau, chrétien, voilà, etc. Mais être disciple, c'est autre chose que naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est rencontrer Jésus. Bon, c'est bien, j'ai rencontré quelqu'un. Mais maintenant, Jésus dit, si vous voulez me suivre, vous voyez, les disciples, ils ont rencontré Jésus. Pierre, André, Jean, enfin, tous les disciples, petit à petit, on a l'histoire dans la Bible, ils l'ont rencontré. Mais il y a beaucoup qui l'ont quitté aussi. Et plusieurs fois, Jésus s'est fâché. Vous croyez que Jésus peut se fâcher ? Eh oui, il s'est fâché. Il s'est fâché contre les vendeurs du temps, parce que ça c'est Mammon, qui rentre dans l'église. Et là, on n'est pas à l'abri non plus au XXIe siècle. Mais Jésus a dit, mais vous ne voulez pas me quitter, vous aussi ? À ses disciples, Pierre, machin, etc. Voilà. Pierre, il a dit même « arrière de moi Satan ». Jésus n'était pas tendre, il était réaliste. Il savait qu'au travers de Pierre, eh bien, Satan pouvait parler et le faire dévier de sa mission. Jésus avait une mission, c'est d'aller à la croix. La seule mission qu'il avait quand il est venu à Noël, c'est d'aller à la croix. Il avait une mission. Et tout le monde, les Satan, le diable, les puissances, les hommes, les chefs religieux ont voulu l'empêcher d'aller à la croix. Vous vous êtes posé la question, pourquoi ? Vous savez, moi j'aimerais tellement que les chrétiens ne soient pas des moutons. C'est vrai qu'ils sont des moutons, parce que Jésus dit, vous êtes des brebis. Voilà. Mais il y a une autre connotation derrière mouton. C'est quoi ? C'est de suivre bêtement quelqu'un. J'aimerais tellement que les chrétiens ne suivent pas bêtement le monde. Et pourtant, c'est ce que je constate beaucoup, à part, bien sûr, il y a des exceptions, et j'aimerais bien qu'on soit dans ces exceptions, suivre bêtement le monde. Pour ne pas suivre bêtement le monde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se poser des questions. Les Juifs, ils ont répertorié plusieurs types d'enfants. Vous savez, les Juifs, ils ont une très grande pratique d'une certaine sagesse qui se transmettent, etc. Parce que voilà, ils ont gardé leur culture et tout ça. Et il y a des enfants qu'ils qualifient, alors je ne sais plus exactement tous les qualificatifs, il y a un enfant qui qualifie d'intelligent. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait cet enfant ? Il pose des questions. Je vous ferai remarquer que ce n'est pas l'enfant qui répond à toutes les questions. Vous voyez ? C'est l'enfant qui pose des questions. C'est pour ça un des critères qu'on applique, nous, dans le leadership, et qu'on veut demander à quelqu'un de devenir leader avec nous, c'est qu'il soit teachable, enseignable. Enseignable, ça veut dire que jusqu'à la fin de mes jours, je me pose des questions. Oui. Attention, ce n'est pas le doute de Pascal, de Descartes. Mais quelque part, ça le rejoint. Je me pose des questions. À partir du moment où je suis sûr de moi, je suis foutu. Foutu. Pourquoi foutu ? Parce que je ne suis pas Dieu. Qu'est-ce que j'en sais ? La science, regardez, en l'espace de quelques années, tout ce qu'ils ont découvert. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Ce que Dieu a fait. C'est les lois de Dieu qu'ils découvrent. C'est rien d'autre. Mais n'empêche qu'il y a des choses qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas avant. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis Galilée au bûcher ? Parce qu'ils voulaient absolument, à partir de la Bible, dire « Voilà, le soleil tourne autour de la terre. » Pourquoi ? Parce que la Bible dit « Le soleil se couche », mais c'est le langage des apparences. Mais si vous regardez dans la Bible, il y a aussi marqué que le soleil tourne autour de la terre. Donc, voyez-vous, il faut faire très attention, même en étant chrétien, des assurances qu'on a. La seule assurance, c'est de ne pas en avoir. C'est d'avoir la foi. Nous sommes des hommes et des femmes qui doivent marcher par la foi. Et la foi, c'est de croire les promesses de Dieu. Il y a beaucoup qui ne se sont pas encore accomplis, mais nous les croyons. Et notre foi est basée sur une vérité historique, c'est que Jésus est mort et ressuscité. Amen. Et lorsqu'il est ressuscité, maintenant il est à la droite de Dieu, il a envoyé son Saint-Esprit, donc la Pentecôte qu'on va bientôt célébrer, pour que nous puissions vivre cette union avec Jésus-Christ, cette union personnelle entre nous et Dieu par Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et ça, c'est la foi. Et cette foi, eh bien, nous permet tout simplement d'être dans une confiance totale de ce que Dieu tient l'histoire dans sa main. Et même celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui le croient ? Nous sommes à la veille des élections. Est-ce que les élections vont changer quelque chose à ce que Dieu a prévu ? Oui, non ? Non, ils ne vont rien changer. Alors pourquoi aller dans les urnes ? Vous voyez ? Là, je vous pose des questions. Ah, je vous coince, là. Eh oui. Vous voyez, on est dans des paradoxes, mais je vous signale que la foi est paradoxale. Il est paradoxal. Paradoxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a deux choses qui sont contraires, qui sont vraies à la fois. C'est quoi, par exemple? La foi paradoxale. On n'aime pas les paradoxes. On aime bien les certitudes. Je pense, donc je suis. Voilà. Voilà. Je n'ai pas besoin de Dieu, je pense, je suis. Je suis Dieu. On aime bien ça. Non, la foi est paradoxale. Jésus dit, par exemple, après qu'il ait dit aux disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, etc. Et le verset d'après, il dit quoi? Il dit, si quelqu'un... Attendez, il faut que je me rappelle du début, pour ne pas faire de bêtises. Si quelqu'un trouvera... Enfin, l'idée, c'est ça. Quelqu'un trouve sa vie, il la perdra. Et celui qui perd sa vie, il la trouvera. Ce n'est pas un paradoxe, hein? Trouver. Je cherche, je trouve. Voilà. Je perds, voilà. Trouver et perdre, c'est quand même deux choses différentes. Là, je perds, hein, j'ai perdu mon iPhone. Hein, si quelqu'un l'a retrouvé, c'est bien. Et puis, je trouve. C'est pas contradictoire, ça? Hello! Vous êtes là? Ben, Jésus enseigne ça à ses disciples, qui dit, si vous voulez me suivre. Et il continue en disant, si quelqu'un trouvera sa vie, il la perdra. Voilà. Et si quelqu'un perd sa vie, à cause de moi, entre parenthèses, hein, il la trouvera. C'est ça le paradoxe de la foi. Et c'est pour ça que la foi n'est pas accessible à la sagesse humaine, à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a besoin de rationalité. Il faut que ça rentre dans les cases. D'accord? Ce qui n'est pas dans les cases, ce n'est pas possible. Ben Jésus, il a l'art de pousser les cases. Ok? Pourquoi? Parce que la foi ne relève pas de l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas une stratégie électorale de l'homme. C'est une stratégie divine. Dieu a prévu de sauver les hommes. Il a prévu. Alors bien sûr, on va lui contester, mais de quel droit Dieu se permet-il de définir des stratégies? C'est pas possible, ça. Ben oui, ça c'est la révolte de l'homme, la rébellion de l'homme. De quel droit? Moi, je construis la tour de Babel. Pourquoi? Parce que comme ça, je vais monter vers Dieu, je vais me faire Dieu. Parce que ce Dieu-là, il faut le dégager, il est ceci, il est cela, etc. etc. Oui, si vous croyez dans le Dieu... que les hommes fabriquent, oui, vous avez raison. Mais le Dieu qui existe de toute éternité et par qui nous avons le mouvement et l'être, comme dira Paul aux Athéniens, ben ce Dieu-là, il a choisi une stratégie. Et malheureusement, il ne rentre pas dans nos cadres. Alors posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Si vous voulez faire des élections dimanche prochain, posez-vous des questions. Il y a des questions à se poser, questions intelligentes. Et vous serez mis tout de suite sur la piste si vous posez les bonnes questions. Et bien sûr, si vous connaissez l'histoire de la Bible. Il faut connaître ce que Dieu... Parce que Dieu ne nous laisse pas... Il ne nous laisse pas ignorants. Il a dit, je donnerai à mes enfants la sagesse pour connaître ce qui va arriver. Ça a été donné à Daniel, ça a été donné à tous les hommes de Dieu. Nous sommes un peuple prophétique. Sinon, nous ne sommes rien. La Bible est prophétique. Dieu annonce les choses d'avance. Jésus a été annoncé d'avance. Il a été même annoncé tellement à l'avance qu'en Genèse 3, lorsque l'homme a péché, Jésus a été annoncé déjà. Et ensuite, après, les prophètes ont continué à annoncer jusqu'à la venue de Jésus. Mais la venue de Jésus, qui l'a reconnu? Ben, personne. Sauf Siméon qui attendait la venue parce qu'il avait la foi. Sauf ceux qui avaient la foi. Marie, elle a reconnu parce qu'elle attendait le Seigneur. Le Seigneur, il ne nous force pas à recevoir ce qu'on n'attend pas. Vous voyez ? Voilà, c'est tout à fait contraire à l'idée d'un Dieu que les hommes vous mettent dans le crâne. Complètement à l'envers. Dieu respecte notre liberté. Dieu respecte notre volonté. Dieu respecte ce que nous voulons croire ou ne voulons pas croire. C'est pas du tout ça qu'est Dieu dans la Bible. Bien sûr, les hommes vous font croire ça. Mais c'est une abomination, c'est abject. Dieu respecte votre liberté. Par contre, il veut votre bonheur. Le problème, c'est que le bonheur, on ne peut pas le faire à l'insu des gens. Voyez-vous ? Moi, si je veux faire le bonheur de Maggie, je peux... et si elle ne veut pas... Hein ? Mais il y en a, ça s'appelle les idéologues. Et en politique, on a que ça, presque. Des idéologues qui veulent faire votre bonheur. Ils vous disent que c'est que votre bonheur. Et si vous votez pour moi, je fais votre bonheur. Voilà. Que vous vouliez ou pas. Alors aujourd'hui, les gens sont désabusés, ils ne savent plus par quel sens se vouer. Okay, forcément, parce que tout le monde veut votre bonheur. Mais c'est quoi le bonheur ? Parce que vous n'êtes pas si bêtes que ça, les Français. Je trouve qu'ils sont quand même intelligents. Hein ? S'ils ne se posent pas tous des questions, ils sont quand même intelligents. Et ils comprennent aujourd'hui, dans le XXIe siècle, en 2017, que... Il y a beaucoup de promesses, mais... On voit que personne jusqu'à présent n'a pu les tenir. Est-ce que ça va continuer ? Donc, ils sont dans la confusion. Aujourd'hui, c'est la confusion. Mais il n'y a pas de certitude. Tout est confusion. Tout est confusion. Mais par contre, ils veulent votre bonheur. Hein. Attention. Celui qui vous voulez voter, il veut votre bonheur. Vous voyez, on est dans un monde bizarre. Bizarre. Tellement intelligent qu'on n'a pas besoin de Dieu, parce qu'on sait tout, on sait, la science dit, voilà. Puis même la science va tout résoudre, d'ailleurs. Tous les maladies, tous les machins, va vous donner l'immortalité, pourquoi pas, tout, voilà. Tout est prédit par la science. Mes chers amis, soyons des chrétiens comme des ambassadeurs. La seule chose qu'on peut être, c'est des ambassadeurs. Comment ça fonctionne, un ambassadeur ? Tiens, Colette n'était pas ambassadrice, mais pas loin, elle sait bien comment fonctionne une ambassade. Est-ce qu'une ambassade... Bah, tiens, tu viens bien devant. Je vais te faire participer. Parce que là, ce n'est pas mon domaine. Hein, moi, je suis en théologie, mais elle est plus concrète. Est-ce qu'un ambassadeur, il peut aller dans un pays, par exemple, toi, tu étais en Israël, comme consul, hein, consul, est-ce qu'un ambassadeur, il peut s'imposer dans le pays où il est et dicter ses volontés ?
À la seule condition qu'il ait été accrédité par le président de l'État dans lequel il est censé représenter le président de la République. Il y a une lettre d'accréditation, donc il ne peut être dans l'exercice de la plénitude des pouvoirs qui lui sont conférés par le président de la République française que s'il est accrédité par le président de l'État dans lequel il va représenter.
Donc il est tenu un certain protocole. Et s'il outrepasse ce protocole, il est rappelé.
Oui, j'ai connu l'expérience. Il a pas... Oui, enfin, on va dire qu'il a dépassé le protocole. Il a été rappelé, effectivement. Mais c'était... Voilà. Bon, disons qu'il a été rappelé. Il a été rappelé.
Voilà. Donc c'est une autorité qui a parlé de l'ambassade. Bien, l'apôtre Paul veut dire que nous sommes ambassadeurs. Donc quel est notre pouvoir dans ce monde ? Parce que Jésus lui-même, il a été interrogé là-dessus. Voyez-vous ? Regardez la Bible, c'est un livre extraordinaire, c'est un livre d'histoire qui vous raconte toutes les questions que vous posez. Jésus, on lui a dit, mais pourquoi ? Pourquoi ne fais-tu pas venir des anges ? Parce que tu dis, voilà, des anges, tu es aux ordres. Ben, tout le monde est à tes ordres, y compris les anges. Ben, t'as qu'à les faire venir. T'as qu'à les faire venir. Et ben, ils vont régler tous les problèmes. Jésus n'a pas dit qu'il ne pouvait pas. Il a dit que ce n'était pas sa mission. Ça veut dire que dans l'histoire, il y a des choses qui doivent arriver à un moment précis. Et Jésus n'a pas dit qu'il ne pouvait pas à Satan, quand tu lui as dit, mais écoute, t'as qu'à sauter et les anges vont te porter. C'était quoi l'idée derrière ? Il faut toujours se poser la question, pourquoi Satan a-t-il essayé de lui faire faire ça? Pourquoi est-ce que Satan... Il a tenté trois fois. D'abord dans le désert, ensuite après sur une haute montagne, et ensuite sur le temple. Pourquoi il lui a posé la question? Bien sûr, pour ne pas accomplir la mission, mais c'est plus subtil. Avec l'ennemi, il faut toujours chercher les subtilités. Parce qu'il est comme un serpent, il est rusé. Jésus l'a dit, il dit « faites attention ». C'est plus subtil que ça. C'est plus subtil que ça. Ah, vous voyez, je vous pose des questions, là. Pardon ? C'est plus subtil que ça. Pardon ? Non, mais bon, mon prédication, là, ce n'est pas d'approfondir ça, c'est juste une question qui me traverse l'esprit. Oui ? C'est plus subtil que ça. Non, sachez que le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux. Non. Non, mais quand je dis non, c'est oui, mais je veux dire, la réponse finale est plus subtile. Plus subtile. Le serpent, il est subtil. C'est pour ça que vous ne le voyez pas venir. Pardon ? Ah, là, tu commences à brûler, là. Comme les lapins, là. T'es pas loin, là. Si vous voulez comprendre Satan, vous cherchez les péchés les plus graves, entre guillemets, je ne suis pas dans l'Église catholique en mettant les péchés, mais l'orgueil est un des péchés, disons, de racine, je dirais, par des gravités, racine. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Satan, il n'a pas accepté sa position, et l'orgueil l'a poussé à chercher à monter sur le trône de Dieu. Donc l'orgueil est un péché racine. C'est vrai que c'est l'orgueil. Mais je vais vous expliquer, enfin en tout cas moi, hein, je veux dire, après il y a certainement d'autres explications, ce n'est pas la Bible qui le dit. Moi je pense que tout simplement, le temple, alors c'est le contextuel, hein, je fais un peu comme Michel, je remets le contexte à l'heure du jour pour comprendre ce qui se passe. Imaginez le temple. Devant le temple, il y a une grande esplanade. En ce moment, il y a l'esplanade de la mosquée à Jérusalem. Très grande. C'était l'endroit le plus fréquenté en Israël. Vous êtes d'accord ? Je ne raconte pas de bêtises. C'était souvent noir de monde. Alors, en plus, si Satan l'a emmené un jour où il y avait un rassemblement, c'est certainement ce qu'il a voulu faire. Là où il y a le plus de monde. Et l'idée de Satan, c'était que quand Jésus allait sauter et que des anges allaient le porter, qu'est-ce qui allait se passer ? Waouh ! Vous voyez, l'orgueil, qu'ils accueillent Jésus comme le Messie, comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un qui vient d'un extraterrestre. Vous voyez l'idée ? Jésus, il savait, bien sûr, que c'est ça que Satan voulait, et il a refusé. Il a dit, tu n'adoreras que Dieu seul, tu ne tenteras pas ton Dieu. Voyez-vous, Jésus avait des réponses adéquates, mais lui ne s'est jamais laissé tenter. Parce que sur la montagne, il lui a simplement dit, voilà, tous ces royaumes t'appartiennent. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Pas encore. Déjà pas encore. Donc ne soyons pas impressionnés par la foule, par les gens, par le ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée unique, si vous voulez. Mais soyons clairvoyants. Dieu dit à Daniel, ce seront les clairvoyants, ceux qui verront clair, qui seront gardés jusqu'à la fin. Daniel 12. Je me suis éloigné un peu de mon message qui était... Ça, c'est juste l'introduction. J'ai quand même vous donné un enseignement précis à partir d'un Corinthiens 15 parce que mon idée, c'était de vous parler de la résurrection des corps. Et 1 Corinthiens 15, tout le chapitre 15, il y a quand même pas mal de versets, hein, il y a 58 versets. Donc si je commence à lire, j'en aurai pour 10 minutes, peut-être pas, mais 7. Donc je vais pas le faire. Mais l'idée, c'était de parler de la résurrection des corps. Parce qu'en fait, c'est ça qui a agacé le plus les sages, ce qu'on appelle... Vous savez, il y a deux catégories, habituellement, hein, dans la Bible. C'est les croyants et les Grecs. Les Grecs. Les Grecs, parce qu'à l'époque, les Grecs, ben, c'était gréco-romains, c'était les gens qui peuplaient le monde à ce moment-là. Et les Grecs, ils étaient axés sur la sagesse. Et la sagesse grecque, elle est spéculative, elle est philosophique. Spéculative. C'est-à-dire basée sur des mythes, c'est basé sur des pensées, c'est pas basé sur l'histoire. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils avaient en horreur dans leur sagesse? Ils ne voulaient absolument pas entendre, ça ne rentrait pas du tout dans leur philosophie, c'était quoi? Fondamentalement. C'est le corps. C'est le corps. Parce que les sages, que ce soit Socrate, Solon, tous les philosophes, leur manière d'appréhender le monde, je veux dire, on n'a pas besoin d'être sage d'ailleurs, vous avez la même sagesse que les Grecs, c'est de voir que beaucoup de problèmes viennent du corps. On a l'impression que c'est une grande sagesse, mais c'est une évidence, quoi. La maladie, les problèmes psychologiques, tout ce qui est du corps, etc., ça mène que des problèmes, les passions. Voilà. Mais les philosophes ont dit, si vous maîtrisez votre corps, zen, pas de problème, vous pouvez vivre dans le bonheur. C'est le bonheur, il vous annonce le bonheur si vous maîtrisez le corps. Donc il faut maîtriser le corps. Et la sagesse des sagesses, d'ailleurs je l'avais fait une fois avec un verre, des verres ronds là, qui souvent dans les cantines quand elles laissent tomber, ça casse en mille morceaux. Là. Duralex, c'est précis ça. Designer qui parle. Si j'avais un verre en Duralex, là, c'est Platon qui expliquait ça, pour expliquer sa philosophie. Prenez un verre comme ça, alors il n'y avait pas de Duralex à l'époque, et il le remplit d'eau. Et il dit voilà, philosophie c'est ça. C'est que un jour, ce verre, il va être brisé. Et l'eau va se mélanger avec l'océan. Vous savez d'ailleurs que le Dalai Lama s'appelle océan de sagesse. Donc ça se répand dans l'océan. Donc votre âme va re-rentrer dans l'océan de sagesse. Et voilà, donc ça c'est le nirvana. C'est la plénitude de la sagesse. Ce qui fait que l'idéal c'est de se suicider. Si vous suicidez tout de suite, vous rentrez tout de suite. Il n'y a pas un petit air comme ça dans une autre religion qui parle de ça? C'est pas vieux, c'est de la sagesse grecque, ça. Lisez les livres de philosophie, vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, la sagesse, c'est que le corps ne s'exprime pas. Donc, il y a les épicuriens, ceux qui... usent de leur corps abondamment, parce que voilà, puisqu'il ne sert à rien, autant en profiter. Voilà, comme ça. Allez, tous les vices, tout ça, parce que c'est le corps, hein, donc on s'en fout. Voilà. Donc c'est les épicuriens. Et puis les autres, les stoïciens. Alors là, les stoïciens, rien ne me touche. Moi, je suis au-dessus de ça, vous voyez. Donc c'est ceux qui ont une grande sagesse, comme Diogène, tout ça, etc. Voilà. Donc vous voyez, les extrêmes. Et Paul, quand il va à Athènes, qui est le centre, la philosophie grecque. Il va prêcher cet aéropage de tout un tas de sages qui lui disent bah, « Vas-y, parle-nous de ta religion. » Là, on a entendu parler, mais voilà, parle-nous de ça. Et Paul va discourir pendant un certain temps. Et à un moment donné, quand il réalise qu'il parle de Jésus ressuscité, il dit « Ah, arrête !» Et là, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Parce que c'est de la folie, ça ne rentre pas dans la sagesse. C'est pas possible. Qu'un homme puisse avoir un corps et que ça, c'est le sommet de la religion, d'une religion ou d'une philosophie, c'est pas possible. Voyez-vous comme quoi Dieu confond notre sagesse. Et à l'époque de Paul, comme aujourd'hui, c'est pas recevable la résurrection des corps. Or Jésus, je suis désolé de le dire après 2000 ans d'histoire, Jésus est ressuscité et il a reçu un nouveau corps. Dis-le à ton voisin. Jésus a reçu un nouveau corps. Ça, c'est la réalité chrétienne. Et comme il a reçu un nouveau corps, et ça, c'est les prémices. Prémices, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier. De ce que nous recevrons. Et c'est pas de l'orgueil, ça. C'est pas de l'orgueil. C'est simplement de la foi. C'est qu'un jour, nous aurons un corps ressuscité. Et ça, ça ne peut pas être prouvé scientifiquement, ni expliqué scientifiquement. Pourtant, c'est vrai. Si j'avais une petite graine de cette plante-là, je ne l'ai pas, mais une petite graine. À quoi ressemble cette graine? Un microscope, c'est un petit tiron, etc. Je le mets là-dedans. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça devienne ça? Très souvent, moi, j'ai des graines, et si ce n'est pas marqué dessus, je dis, alors qu'est-ce que ça va donner, un concombre, un machin, je ne sais pas. Une graine, c'est pas. Et pourtant, c'est extraordinaire. Quand ça devient le fruit, quand ça s'épanouit. Quand vous avez une chenille, est-ce que vous pouvez imaginer, bien sûr, vous pouvez imaginer, puisque vous l'avez vu, mais c'est la première fois que vous voyez une chenille, que ça devienne un papillon. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et ça n'a rien à voir, le papillon n'a rien à voir avec la chenille. Rien. Ben, c'est exactement ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens 15. Je veux juste le lire avant de terminer. Au verset 42 du premier chapitre, non, de 1 Corinthiens 15, pardon. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés corruptibles, on ressuscite. C'est pas Jésus. Hein. Jésus, c'est le premier, mais nous, on se va suivre. On ressuscite incorruptible, semé méprisable, on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force, semé naturel, semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. Il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. Chers amis, le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation avec un Dieu vivant qui tient les choses dans sa main, qui a une destinée pour nous, qui a un avenir pour nous, qui a une espérance. Et notre espérance repose sur la foi. Et l'apôtre Paul dira dans un passage que si nous ne croyons pas en la résurrection, ça ne sert à rien de croire. La foi est vaine. C'est pourquoi Pâques, c'est un défi à la foi. C'est un défi à la foi. Aujourd'hui, c'est un défi à la foi de nos contemporains. Ou on veut croire que Jésus est vraiment ressuscité, auquel cas tout est possible, puisque nous serons comme lui, en communion avec lui, nous serons nous aussi, ce corps nouveau. Et là, les choses peuvent changer quand Jésus va établir son règne sur la terre. Mais avant, il n'y a pas besoin de rêver. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, que notre espérance, mes chers amis, soit contagieuse. Que ton espérance, que ta foi soit contagieuse. Que ta foi ne soit pas mélangée à la philosophie de ce monde. Et comme dirait Georges Dufoy dans une lettre qui nous est adressée, à l'esprit du monde. À chaque fois que nous mélangeons la foi à l'esprit du monde, elle perd sa valeur. Elle perd sa capacité de tranchant pour les personnes qui l'entendent. Et c'est ça que l'ennemi veut faire dans l'Église. Veut émousser le tranchant de l'épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit. Si nous sommes de ces chrétiens aujourd'hui, nous pouvons transformer le monde, même si nous sommes trois. Jésus, il a investi en 12 personnes. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il y a des méga-churches qui disent, oui, il faut être méga. Jésus, est-ce qu'il était méga? C'est le Fils de Dieu avec 12 personnes. Il a changé le monde. Mais ce sont des gens qui sont convaincus de ce qu'ils croient. Ce sont des gens qui sont incorruptibles dans leur foi parce qu'ils sont appuyés sur la croix de Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te prions ce matin afin que ce message de la résurrection qui était simplement un témoignage à l'époque d'une réalité historique. Seigneur, que ce témoignage que nous transmettons de génération en génération, eh bien, nous puissions le vivre au quotidien aujourd'hui, et que nous ne soyons pas délétères, que nous ne mélangions pas, que nous ne fassions pas des syncrétismes, Seigneur, sous prétexte, quel que soit le prétexte, mais Seigneur, que nous soyons de ceux qui savent affirmer leur foi dans l'amour. Dans l'amour. Seigneur, que nous soyons comme Jésus, que, Seigneur, nous puissions discerner les choses, que nous puissions, Seigneur, être éveillés, vigilants, clairvoyants sur les choses, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé parmi nos contemporains, que ceux qui cherchent puissent trouver et qui puissent te rencontrer, Père, au travers de nous. Nous te prions au nom de Jésus.